Voilà, béni soit Dieu. Avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'aimerais vous donner encore une expérience que nous avons faite dans le cadre de l'œuvre de Dieu à Caen. Depuis pas mal d'années, j'avais à cœur de créer une librairie chrétienne dans la ville, parce que il y a fort longtemps que les hommes ont compris la puissance de la page imprimée. Alors nous cherchions éventuellement un local pour créer cette librairie où nous pourrions vendre la Bible et tout ce qui touche à la parole de Dieu. Et puis il s'est trouvé un matin, alors que nous nous réunissions avec les candidats tous les matins et toute la matinée pour prier, un matin, l'un des candidats qui était avec moi me dit « Monsieur Balière, est-ce que vous avez remarqué que l'ancienne fleuriste à 50 mètres de la salle, le magasin est non pas en vente puisque les murs n'étaient pas à vendre, mais le fonds de commerce ?» J'ai dit « Non, je n'ai pas remarqué ça. » Et puis je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis pas pressé. Et quelque temps a passé et quelqu'un était sur l'affaire pour s'installer. Et dans mon cœur, je me suis dit, bon, si ça ne s'est pas fait, après tout, c'est que ce n'était pas pour nous. Et puis quelques jours plus tard, on a revu la pancarte parce que l'affaire ne s'est pas faite avec les gens. Alors je suis voir l'agent immobilier chargé de cette affaire. Nous l'avons visité et nous nous sommes dit que ce serait un beau lieu pour implanter une librairie chrétienne, d'autant plus qu'on était à une cinquantaine de mètres de notre lieu de culte. Il n'était pas question de prendre de l'argent sur l'encaisse de l'église, puisque nous entrions dans du commercial et une association cultuelle ne peut pas faire de commerce. Donc nous avions une association culturelle dans laquelle nous avions inscrit la possibilité d'éditer et de vendre des livres. Donc nous avons lancé le projet au niveau de l'Assemblée, les chrétiens ont été emballés, et nous avons dit « pas de prêt, parce qu'on n'aura pas l'argent pour vous rembourser, des dons seulement ». Et nous avions fixé à la propriétaire des murs une date butoir pour lui dire oui ou non. Il nous fallait déjà pour rentrer dans les murs 12 000 euros, sans parler des travaux, sans parler après de tout l'aménagement, de tout le stock en Bible et en livres. Donc l'argent arrivait tranquillement et nous étions à peu près une quinzaine de jours de la réponse à donner à cette femme païenne, et il nous manquait 7 000 euros. Je suis allé faire une mission à Biarritz, chez les sédentaires, et il m'arrive de faire cela dans les missions, de dire aux frères, ne prévois rien pour la nourriture le midi, je passe mon temps dans le jeûne et la prière. Et c'est ce que j'ai fait dans cette mission à Biarritz. Je suis resté plusieurs midis dans mon hôtel. J'ai une méthode pour lire ma Bible. Je la fractionne en 7 parties. Le lundi dans une partie, le mardi je lis dans une autre, etc. Et c'était un jeudi. Et le jeudi, je lis dans une certaine partie de ma Bible. Et là, à l'hôtel, dans ce temps de jeûne, le Saint-Esprit me dit fortement... Et quand il me parle, je le sais, je le sens, lis le livre de Ruth. Lis le livre de Ruth. Alors, il n'y a que 4 chapitres, je me suis mis à lire le livre de Ruth. Et je suis arrivé sur cette parole de Naomi à sa belle-fille Ruth. Cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et ce verset est arrivé dans mon cœur comme une flèche. c'était clair, les 7000 euros allaient arriver aujourd'hui. Et nous pouvions nous lancer dans l'affaire. Alors, la journée s'est passée, il y a eu réunion le soir, et le lendemain matin, au téléphone, je demande à ma femme, alors, et les offrandes pour la librairie, où ça en est ? Elle me dit toujours rien. Je rentre de la mission le jeudi ou le vendredi, et nous avons des troncs dans la salle, au fond. Les chrétiens qui veulent mettre de l'argent dans les troncs peuvent le faire. Alors, nous devions donner la réponse le lundi. J'attends que la salle se vide, qu'il n'y ait plus personne, et je vais voir les troncs. Et vous savez ce qu'il y avait dans les troncs ? Et je me suis dit, bon, il y a encore dimanche. Alors c'est vrai que l'Assemblée de Caen était très généreuse, puisque entre l'offrande pour le culte et la mission, chaque dimanche, nous avions entre 2000 et 3000 euros. Et je me suis dit, bon, les 7000 euros vont être dans la corbeille ce matin. Et puis, il y a eu l'offrande. Et il n'y a pas eu 7000 euros, il n'y a rien eu. Alors, il y a eu la réunion d'évangélisation l'après-midi. Et j'ai attendu, là encore, que la salle se vide. Nous devions donner la réponse le lendemain. Et il nous manquait toujours 7000 euros. Quand la salle a été vidée, je suis allé voir les troncs. Et là, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire avec le livre de Ruth ? Cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Donc je rentre chez moi et je devais donner la réponse le lendemain matin. Et au début de la soirée, un coup de téléphone. Un frère, chercheur au CNRS, qui venait de Hong Kong, qui a fait quelques années à Caen, qui s'est converti avec sa femme, que j'ai baptisée tous les deux, qui était reparti à Hong Kong et qui était de passage à Caen ce dimanche-là et qui avait entendu parler de notre projet, me téléphone. Et il me dit, « Monsieur Balière, j'ai entendu parler de votre projet pour la librairie. Il vous manque combien ?» Alors, j'ai pas osé lui donner le chiffre. 7000 euros, c'est une somme quand même, hein. Ah, il m'a dit, mais il vous manque combien ? Ben, j'ai dit, 7000 euros. Eh bien, je vous fais le chèque ce soir. Et le lendemain matin, je donnais la réponse positive à cette femme et nous avons pu créer cette librairie qui est un véritable témoignage en la ville. Alors après, j'ai voulu des explications auprès du Seigneur quand même. Cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Et le Seigneur m'a appris quelque chose. Il m'a dit, entre le moment où moi je décide les choses dans le ciel, où c'est réglé pour moi là-haut, et le moment où c'est concrétisé sur la terre, il faut savoir attendre et me faire confiance. Mais l'affaire, elle était terminée là-haut pour lui. Il savait ce qu'il allait faire. Il fallait simplement attendre que les choses se mettent en place sur la terre. Et quand Jésus nous enseigne dans notre Père que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel, c'est ça. Et ce n'est pas autre chose que ça. Les choses sont décidées, elles sont faites dans le ciel. Il ne reste plus qu'à ce qu'elle se concrétise sur la terre. Un peu comme quand Dieu a dit à Élie, « Tu vas aller à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Lisez bien le texte, jamais Dieu n'a parlé à cette veuve. Jamais. Et quand Élie arrive, elle ne dit pas, « Oui, tu fais bien d'arriver, Dieu m'a donné l'ordre de te nourrir. » mais c'était décidé là-haut. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et puis vient le moment où Dieu concrétise les choses sur la terre. Alors je vous dis ça pour vous encourager. Si vous avez besoin de 7000 euros, ça va arriver. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas quels sont vos 7000 euros. C'est peut-être une guérison. C'est peut-être la conversion d'un conjoint, d'un enfant. Il vous l'a promis, alors il va le faire. Et il faut rester dans la foi. J'aimerais lire avec vous ce matin un texte que vous entendez tous les dimanches. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. En ce qui concerne l'institution du repas du Seigneur, la parole de Paul au verset 23 est étonnante. Il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Alors il est vrai que les évangiles commençaient tout juste à être rédigés. L'évangile de Matthieu a été rédigé vers l'an 50, l'évangile de Luc vers l'an 60, l'évangile de Marc, plus tard encore, vers l'an 68, mais les chrétiens pratiquaient la Sainte Cène régulièrement. Puisque dans Actes 2, il est dit qu'ils persévéraient dans la fraction du pain. Et puis il y avait aussi la tradition apostolique orale. Je veux dire par là que les apôtres, ayant reçu l'enseignement de Jésus, continuaient à le transmettre dans leur prédication, dans leur enseignement. D'autre part, Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, nouvellement converti, avait déjà dû lui-même participer au repas du Seigneur. C'est pourquoi je dis que la parole du verset 23 est étonnante. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que signifient donc ces paroles ? L'apôtre parle ici comme ayant eu personnellement une révélation de Jésus-Christ sur ce point-là de la Sainte Seine. Sur ce point-là, comme sur tout l'évangile qu'il prêchait. Dans sa lettre aux Galates, il dit : « Je vous déclare, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et vous pensez bien que si, alors que les églises pratiquaient déjà la Sainte Cène, l'apôtre Paul a reçu une révélation particulière et personnelle de Jésus sur ce point-là, c'est dire l'importance de cet enseignement et c'est dire le sacré de sa pratique. Le thème de mon message ce matin, c'est de discerner le corps du Seigneur. Vous allez dire, Balière, si vous êtes venu pour nous dire ça, nous on sait. Eh bien, on va voir. Au verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Il est donc indispensable, quand nous les croyants, nous participons au repas du Seigneur, nous soyons capables de faire ce que Paul dit ici, de discerner le corps du Seigneur. Mais quel est ce corps ? Paul dit, après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et il dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Quand, après le souper, Jésus prend la coupe, il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Notez bien ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Il s'agit donc du corps de Jésus livré à la croix. Mais en réfléchissant de très près à la parole du Seigneur, nous nous rendons compte que lors de la Sainte Cène, nous ne sommes pas appelés à nous souvenir de la date, un peu plus de 2000 ans, de l'endroit, le Golgotha, et je vais oser le dire, ni même seulement de la croix, mais nous sommes appelés à nous souvenir de lui, de Jésus, de sa personne tout entière, de cette vie livré sur la croix et de tout ce qui découle de cette offrande de Jésus sur la croix. La parole de Dieu nous dit que nous avons tout pleinement en lui. La Bible dit de Jésus qu'il est le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La Bible dit que nous sommes accompli en lui, qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et du même coup, je réalise la bénédiction qui s'attache pour moi au repas du Seigneur, si je suis capable de faire cela en mémoire de lui, de lui. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 10: « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Le pain que nous allons partager tout à l'heure, est-il son corps ? Le vin que nous porterons à nos lèvres, est-il son sang ? Les employés un mot théologique un peu compliqué, n'ayez pas peur, je vous explique. Nous ne croyons pas à la doctrine catholique de la transsubstantiation. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? La transsubstantiation. Le mot signifie un changement de substance. Lors de la messe, et je vais y revenir dans quelques secondes, le prêtre a un pouvoir magique. Je ne dis pas cela au sens de la dérision, de la moquerie, mais au sens sérieux du terme. Au moment où le prêtre présente l'hostie, elle devient, dans la doctrine catholique, chair et sang de Jésus. Et quand le prêtre met l'hostie sur la langue du communiant, il dit que c'est le corps de Christ. Il y a un changement de substance. Et c'est pourquoi la messe, c'est peut-être un peu fort de le dire ainsi, est un blasphème. Parce qu'elle n'est pas un mémorial, mais c'est le renouvellement du sacrifice de Jésus à chaque fois. Parce que l'hostie devient à nouveau chair et sang de Jésus. Ce n'est donc pas le souvenir de ce qu'il a fait, mais la messe est le renouvellement du sacrifice de Jésus, alors que l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est mort une fois pour toutes. Alors le pain que vous allez porter à vos lèvres tout à l'heure reste du pain. Nous ne sommes pas des théophages, nous ne mangeons pas notre Dieu. Le vin que nous portons à nos lèvres, pardon, n'est pas le sang de Jésus, c'est du vin. Essayez de vous représenter l'institution de la scène. Jésus est là avec ses disciples, en train de manger, repas de la Pâque. Et puis à un moment donné, Jésus prend du pain, il le rompt. Il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Jésus ne disparaît pas pour rentrer dans le pain. Je vous dis des choses simples ce matin. Il y avait le pain et il y avait Jésus visible. Quand ils ont mangé le pain, ils n'ont pas mangé Jésus. Jésus était devant eux. Quand, toujours au milieu de ce repas de la Pâque, Jésus prend une coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus ne s'est pas coupé une veine pour remplir la coupe de son sang. Les disciples n'ont pas bu le sang de Jésus. Ils ont bu du vin et Jésus était devant eux. Nous comprenons bien, nous les chrétiens, qu'il y a là un langage symbolique. Je pense que ça se dit aussi chez vous, les tziganes, quand quelqu'un tombe dans les pommes. Ça se dit chez vous, ça ? Oui ? Il est tombé dans les pommes. Mais vous chercherez les pommes, il n'y en avait pas. Hein ? C'est une expression. Quand vous avez fait une démarche et que vous avez bien abouti, et Dieu sait si vous, les tziganes, vous savez faire dans ce domaine, vous vous dites... Ah, j'ai eu un bon tuyau. Ça se dit chez vous, ça ? J'ai eu un bon tuyau. Vous chercherez le tuyau, il n'est ni en cuivre ni en plastique. C'est un symbole. Si je vous sors une photo de mon portefeuille et que je vous dise, ce sont mes 5 enfants, mais personne ne croira que la photo glacée du papier, là, c'est les enfants. On sait bien que c'est du papier. Mais vous comprenez quand je vous dis « ce sont mes enfants ». Et nous allons commencer à comprendre quand, prenant le pain, Jésus nous dit « c'est mon corps ». Quand nous buvons le vin, ceci est mon sang. Et c'est là. Et j'en arrive au cœur de mon message, mais je suis loin d'avoir fini. C'est là qu'intervient notre discernement. La nécessité de discerner le corps du Seigneur. Ça veut dire quoi, discerner ? Le mot veut dire voir à travers. C'est-à-dire que je ne me contente pas de voir ce qui est apparent, mais je suis capable de voir au-delà de ce qui est apparent. Je vois à travers, et au travers du pain, je vois bien plus que le pain. Je vois là un formidable symbole du corps de Jésus qui a été livré sur la croix, et au travers du vin, je discerne, je vois plus loin que le vin. Je vois le symbole du sang de Jésus versé sur la croix pour mes péchés. Il s'agit donc pour nous de discerner dans ce qui ne reste que des symboles une glorieuse réalité pour notre âme. Alors je dis que là, et suivez-moi bien, il y a ce que j'appellerai ce matin une communion verticale. Si je discerne effectivement dans le pain et dans le vin le corps et le sang de Jésus, dans ce temps de la Sainte Cène, il va s'établir entre Christ et moi une véritable communion. Il est au ciel et c'est pourquoi je parle de communion verticale. Écoutez bien le chapitre précédent dans la première épître aux Corinthiens. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors le pain reste du pain. Mais si je suis capable de discerner, de voir au travers, je vais entrer dans une communion spirituelle, une dimension spirituelle extraordinaire, une communion verticale. Au-delà du pain, je communie, je suis uni avec le corps de Christ. Le mot grec traduit par communion signifie partager avec. Je vais partager quelque chose avec Christ. Une communion verticale dans le moment de la Sainte Cène, et nous allons tous comprendre du même coup que ce moment doit être un moment intense de communion et de communication avec Christ en esprit. Si je vois au travers, ma foi va se nourrir de Jésus. Le morceau de pain rentre dans mon système digestif. Mais au niveau de mon âme, par la foi, je me nourris de Jésus. Vous savez, à cause de notre faiblesse, le Seigneur Jésus a voulu nous laisser des éléments visibles, le pain et le vin, pour nous aider à nous souvenir de lui. D'ailleurs, je remarque que dans l'Écriture, il y a d'autres signes de ses alliances antérieures, des choses visibles. Il établit son alliance avec Noé qui sort de l'arche. Il dit, écoute, il n'y aura plus jamais de déluge. Toute chair ne sera plus jamais exterminée de la terre. Je t'en fais la promesse et j'établis une alliance. Et il met son arc dans la nuit. Alors Dieu voit l'arc-en-ciel. Et l'homme voit l'arc-en-ciel, parce que j'y viendrai tout à l'heure, dans une alliance, il y a toujours deux personnes au moins. Et l'arc est là comme un signe visible. Chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, ceux qui connaissent la Bible ont là le signe d'une alliance. Dieu ne détruira plus jamais la terre par les eaux du déluge. La Pâque, ce repas de la Pâque, Il y avait là des signes concrets, visibles, pour qu'Israël se souvienne toujours de cette nuit où il a libéré le peuple de l'Égypte. La fête des tabernacles, quand les Juifs doivent construire des cabanes sur le toit, à la terrasse de leur maison ou ailleurs, Dieu avait dit, mais c'est pour que vous vous souveniez toujours de votre pèlerinage dans le désert. Les pierres du Jourdain, ils sont passés à sec. On a dû ramasser des pierres du Jourdain et les dresser à l'extérieur. Et Dieu avait dit, vous vous souviendrez toujours de ce qui s'est fait. Et quand vos enfants vous poseront des questions, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous leur expliquerez. Dieu a toujours voulu qu'on se souvienne de choses importantes au travers de signes concrets, et la Sainte Cène en fait partie. Je ne comprends pas pourquoi, pas ici, mais partout ailleurs, pourquoi tant de légèreté au moment de la Sainte Cène. J'ai vu, sous des chapiteaux, des sœurs rire, parler. Et au moment où la corbeille arrivait avec les morceaux de pain, subitement, on devient très pieux. J'ai vu des jeunes mâcher le chewing-gum d'un côté, prendre le morceau de pain de l'autre. Et je me dis, mais on est où, là? On est où? J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Discerner le corps de Jésus. Puis on a vu aussi des temps d'onction extraordinaire de l'Esprit où le peuple de Dieu prenait la Sainte Cène sous une onction particulière de l'Esprit. Il n'y a rien de magique dans la Sainte Cène. Mais on a vu et connu des malades dans nos églises prendre la Sainte Cène et dans un élan de foi communier avec le corps de Jésus et être guéris instantanément en prenant le pain et en buvant la coupe. Parce qu'il y avait une communion verticale qui s'établissait avec le Christ. Mais est-ce que c'est ça seulement? Ça fait des années que je médite là-dessus et je vous apporte le fruit de mes réflexions. J'ai remarqué que la première épître aux Corinthiens parle abondamment du corps. Si j'ai bien compté, 54 fois dans cette épître, la parole de Dieu parle du corps. Corps terrestre, le corps de Christ, l'Église, corps de Christ, les corps spirituels, les corps célestes. 54 fois dans l'épître, il est fait mention du corps. Discerner le corps du Seigneur, c'est aller plus loin que ce que je viens de vous dire. C'est aussi réaliser que les personnes qui participent au même moment, dans le même lieu, à ce même repas, sont nos frères, nos sœurs, et qu'ils constituent avec nous le corps de Christ. Nous le discernons. Alors, elle a une robe noire, il a un polo rouge, il a les cheveux de telle couleur, elle les a coiffés de telle couleur, mais nous jugeons à travers. Nous ne regardons plus la personne apparente, mais nous nous disons ce matin, nous vivons quelque chose d'extraordinaire, Seigneur. Nous sommes un miracle. Nous sommes un chef-d'œuvre. Nous sommes le corps de Christ. Et nous le discernons au-delà de l'aspect humain. Il y a une grande réalité spirituelle. Et c'est du même coup ce que je vais appeler maintenant la communion horizontale. Quand je prends le pain et que je bois la coupe, il y a une communion verticale. Je discerne le corps de Christ. Mais il va y avoir une communion horizontale. Je discerne que l'Église qui est là, c'est le corps de Christ. Ne pensez pas que j'exagère. Je suis au chapitre 11, je reviens au chapitre 10. Écoutez, Paul, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes beaucoup, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous comprenez ça? Dans la Sainte Cène, je discerne que par la même croix, le même sang, le même Jésus, il est mon frère. Elle est ma sœur. Nous formons le corps de Christ. Oui, mais alors, pouvons-nous manger le pain, boire la coupe avec de la haine, de la rancune, de l'amertume, un esprit de querelle dans le cœur, étant en conflit? Je crains que, à ce moment-là, nous prenions un jugement contre nous-mêmes. Je prêchais pas ça, mais un message de réveil dans une église sédentaire de la grande banlieue parisienne. Et je prêchais de toute ma force. Puis je suis allé m'asseoir. Le pasteur est arrivé au micro en larmes, demandant pardon à son église. Puis j'ai vu des chrétiens se lever, les uns vers les autres, tomber dans les bras les uns des autres, pleurer, se demander pardon. Et les minutes passaient, et les minutes passaient, et quelque chose était en train de se faire dans l'église. Midi, midi un quart, midi et demi, une heure moins le quart, le pasteur me dit, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je dis, on va surtout pas prendre la Sainte Cène, c'est pas le moment. Là, c'était la grande lessive, la grande semaine du blanc. C'est sûrement pas le moment de prendre la Sainte Cène. Alors c'est allé jusqu'à 1h de l'après-midi, et l'église a très bien compris que c'était pas le moment. Donc le culte s'est terminé sans Sainte Cène, mais les gens commençaient à reconstituer le corps de Christ. Réunion d'évangélisation l'après-midi, mais les chrétiens sont arrivés de bonne heure, demandant des rendez-vous au pasteur, demandant des visites pour régler les affaires. Les chrétiens revenaient de bonne heure pour régler les affaires entre eux. Ça, c'est à nouveau discerner le corps de Christ. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, si je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, j'irai pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Mais Jésus a dit du diable, il n'a rien en moi. L'apôtre Paul dit dans l'une de ses épîtres, Éphésiens, sauf erreur de ma part, de ne pas donner accès au diable. Mais quand je laisse la haine, la convoitise, l'impureté, parce que c'est étonnant parfois de savoir pour quel motif les gens viennent aux réunions. Mais ça, Jésus le sait, ça, pourquoi on vient, vraiment. Quand je laisse la convoitise, la jalousie, l'amertume remplir mon cœur, je laisse un territoire à Satan dans ma vie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'on devient possédé, pas du tout. Je dis qu'on laisse un territoire à l'ennemi dans notre cœur. Et je vais vous le dire, vous serez d'accord ou pas avec moi, le diable a des territoires à lui dans nos églises aujourd'hui. Le diable a des territoires à lui dans nos églises aujourd'hui. À cause de la mentalité de certains croyants, de leur état d'esprit, de leurs sentiments. Parlions de ça dans des missions précédentes, ailleurs, chez les frères Zigan aussi. Et je disais à l'église, écoutez, c'est curieux, mais on ne voit plus de manifestations démoniaques dans nos réunions. C'est pas qu'on cherche après ça, hein. Mais on n'en voit plus. Alors, un, où il n'y a plus de démons, ce dont je doute. Deux, derrière les ambiances, les musiques, les chants, le machin, là, on surchauffe, les gens. Il n'y a pas l'onction. Et les démons ne sont pas gênés. Il y a une baisse du niveau spirituel. Il y a un tas de pensées, de sentiments qui s'installent dans les chrétiens, entre les chrétiens, qui font que tranquillement l'Esprit de Dieu se retire. On prie, mais souvent on enterre nos morts. parce que Dieu n'y est plus. Parce que Dieu conteste, parce que Dieu aimerait que nous discernions à nouveau dans la Sainte Cène le corps du Seigneur. Le corps. Une communion horizontale. C'est déjà pas mal, hein ? Mais j'ai pas fini. Parce que, dans la même épître aux Corinthiens, on peut aller jusqu'à 3 heures, mon train est à 4 heures. Mais non. Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Alors je dis que discerner le corps du Seigneur dans la Sainte Cène, c'est aussi discerner mon propre corps, comme étant la propriété de Christ. Suivez-moi bien, c'est très simple. Dieu a traité une alliance avec nous en Jésus-Christ. Je porte à mon doigt un symbole. C'est une alliance. Mais derrière cet objet concret, il y a une réalité morale. Il y a une personne présente dans cette salle, pas deux. Une. C'est une jeune fille que j'ai aimée au point qu'un jour, nous nous sommes unis. Et cet objet m'empêche d'en regarder une autre. Parce qu'il y a là une alliance avec quelqu'un de bien précis. Quand des hommes pourris dans le monde veulent faire la vie le soir, ils enlèvent l'alliance et ils vont dans des lieux de plaisir. Ils enlèvent l'alliance du doigt. Ça veut dire quelque chose. Mais derrière une alliance, il y a toujours deux personnes. Il y a deux intervenants. Quand la personne est seule, on ne parle pas d'alliance. Et voilà que Jésus, dans ce moment où il institue la Sainte Cène, dit que c'est le sang de l'alliance répandu pour plusieurs. Alors j'aimerais vous conduire vers un texte important des Écritures, mais rassurez-vous, j'ai bientôt fini. C'est le moment où le Seigneur va traiter alliance avec Abraham. L'Éternel lui dit, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Ah, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderais ?» Dieu a bien entendu. Tu veux savoir ? Alors on va parler sacrifice. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne partagea pas les oiseaux. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et je lis un petit peu plus loin, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Écoutez bien, des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Vous allez dire, je ne comprends pas bien le rapport avec la Sainte Cène. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Le texte hébreu dit ceci. Parce que si nos traducteurs avaient traduit vraiment comme ça, on n'aurait pas vraiment compris. Mais le texte hébreu dit, en ce jour-là, l'Éternel coupa alliance. Il trancha alliance avec Abraham. Écoutez bien ça. L'Éternel trancha alliance. Il coupa alliance avec Abraham. Pourquoi ? En Orient, quand deux hommes faisaient une alliance, ils coupaient chacun une veine du bras, ils rapprochaient les bras et ils mêlaient le sang. Il y avait une coupure. Ils coupaient alliance. Ou bien, ils offraient un sacrifice et les deux hommes marchaient entre les animaux du sacrifice. C'était la façon de trancher alliance. Abraham passe évidemment entre les animaux partagés, c'est lui qui les coupe, il est entre les deux. Mais avez-vous remarqué qu'au coucher du soleil, le feu surnaturel, le feu divin, passe entre les animaux partagés. Et juste la ligne d'après, l'Écriture dit que l'Éternel coupa alliance avec Abraham. Qu'est-ce qui se passe dans la Sainte Cène ? C'est une alliance. Je me souviens d'une alliance. Alors en retour de l'offrande du corps de Jésus, je lui offre ma vie. Je lui offre mon corps. Et au-delà de mon costume, de ma chemise, de ma cravate, de mon polo, de mon jean, de ma robe, je discerne mon corps comme étant le corps de Christ. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Je vous exhorte, Romains 12, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique, raisonnable. Discerner le corps du Seigneur dans la Sainte Cène, relation verticale. Je discerne le corps de Christ livré sur la croix pour moi. Communion horizontale. Je discerne que l'Église est le corps de Christ et je veux être uni avec tous mes frères et sœurs, sans aucune ombre. Et je discerne que mon corps devient le corps de Christ. Le Saint-Esprit habite en moi. Je ne suis plus maître de moi-même. Je ne m'appartiens plus. Mon corps est le corps du Seigneur et je coupe alliance avec lui. J'accepte le sacrifice dans ma propre vie. Je vais terminer avant la conclusion, je vous dis encore une chose. La Sainte Cène, c'est un voyage dans le temps. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est une projection indispensable dans le passé. Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Comment ça, un pasteur pour oublier Jésus ? Oui, sinon il n'aurait pas écrit ça. Je ne sais pas comment, pasteur, on peut oublier Jésus. Mais Paul n'a pas écrit ça pour rien, il était inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est à son candidat qu'il a dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». La Sainte Cène, c'est une projection dans le passé. C'est aussi un message très fort pour le présent. Paul dit « Vous annoncez la mort du Seigneur » en prenant la Sainte Cène. La Sainte Cène, c'est une proclamation de foi. Et c'est en même temps un message pour les gens présents dans le culte qui ne sont pas convertis. Au moment où nous nous levons, c'est comme si nous leur disons, mais Christ est mort aussi pour vous. Et vous feriez bien de vous convertir et de lui appartenir. C'est un message de toute l'Église, instantanément et collectivement. Dans quelques courts instants, ensemble, nous allons annoncer la mort du Seigneur. Et puis la Sainte Cène, c'est une espérance pour l'avenir. Faites ceci en mémoire de moi, c'est le passé. Vous annoncez la mort du Seigneur, c'est le présent, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est l'avenir et c'est notre glorieuse espérance en lui. Alors je vais conclure et pour faire court, je vais lire mes notes pour ne pas déborder. N'ayons pas une attitude profane, légère, devant une institution aussi sacrée. Vous savez que les Corinthiens avaient profané la scène du Seigneur. Il y a des frères qui arrivaient ivres au culte. On se demande si c'est possible. Paul dit dans la nuit où il fut livré. Quelle nuit que celle du verset 23. La nuit de Jésus. Faisons preuve d'un grand discernement pour goûter à toutes les bénédictions qui s'attachent à ce repas. Apprenons à nous juger nous-mêmes, à juger au travers. Parce que Paul dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est le même mot que pour discerner, un verset plus haut. Si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas discernés. Dieu juge à travers les apparences. Il sait quel genre de pasteur je suis. Je ne peux pas tricher devant lui. Je peux tricher devant vous. Vous en mettre plein la vue par des beaux messages. Arriver avec mon beau costume, ma cravate. Mais Dieu discerne ma vie. Il juge à travers ça. Il sait qui je suis réellement. Et il sait qui tu es. Et il faut que nous soyons capables de nous discerner nous-mêmes pour ne pas être discernés par le Seigneur. Je vais terminer en vous disant simplement ceci. Bénissons le Seigneur pour un tel mémorial. C'est pas rien nos cultes. C'est pas rien. Et au-delà du pain et de la coupe, mon frère, ma sœur, rassasie ton âme de tous les mets gras et succulents de la table du roi des rois. Là, ce n'est qu'un morceau de pain, une gorgée de vin. Mais sur le plan spirituel, quel festin, quelle table. Dieu veut nous rassasier de ces mets gras et succulents. Et pour qui a faim de Jésus, et pour qui a de plus en plus faim de Jésus, il va être rassasié, il va être comblé, nourri, vivre avec Christ, je dirais vivre de Christ. C'est une vie extraordinaire, passionnante. Je vous la souhaite, je me la souhaite de tout notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous recueillir et louer Dieu ensemble.